La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À minuit ce samedi, nous basculerons dans une nouvelle année, du moins l'ensemble de ceux qui habiteront alors notre fuseau horaire et parmi ceux-là, ceux soumis à notre calendrier. Le temps, nous le savons, n'est pas une simple donnée physique, ni même la manière dont nous l'éprouvons individuellement. C'est aussi une convention. Nous le savons et le vérifions quotidiennement et même souvent heure par heure. Pourtant, cette idée qui nous semble aujourd'hui évidente n'est que très récente. Son énonciation, son élaboration s'opère au tournant des 19e et 20e siècles, concomitamment au véritable avènement des sciences sociales. C'est cette histoire que propose Thomas Hirsch avec Le temps des sociétés, passionnante enquête dans des œuvres aussi diverses qu'articulées les unes aux autres, dans le cadre de ce qu'on appelle l'École française de sociologie, fondée par Émile Durkheim. Il est temps, en cette fin d'année, de se pencher sur le temps et d'en profiter pour vous adresser, chères auditrices, chers auditeurs, mille vœux pour la nouvelle année. Thomas Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes actuellement post-doctorant dans un LABEX, ASTEC, détaché aux archives nationales, et vous publiez aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales « Le temps des sociétés » d'Émile Durkheim à Marc Bloch, un livre impressionnant par son érudition, le travail d'enquête d'histoire intellectuelle que vous avez menée sur un sujet très très important qui nous renvoie au commencement institutionnel au moins des sciences sociales, avec une question dont les enjeux sont considérables parce que il touche à la relation entre cette sociologie naissante et à l'histoire, à la philosophie, deux disciplines qui sont à l'époque beaucoup plus institutionnalisées que la sociologie, beaucoup plus puissante aussi. C'est cette histoire que vous racontez dans ce livre qui est tiré d'une thèse et qui est une histoire beaucoup plus récente qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que ce qui nous semble cette évidence, à savoir que le temps est nécessairement social, on s'en rend compte de multiples manières, eh bien, il a fallu attendre le tout début du XXe siècle, 1901, pour que l'idée soit formulée de manière aussi précise que ça, Thomas Hirsch.
Oui, et c'est l'intérêt de cette idée, c'est qu'elle permet au fond de revenir sur ce moment d'affirmation très forte du social comme mode d'intelligibilité des hommes.
Alors, pour comprendre vraiment pourquoi quelqu'un, un jour, va pouvoir affirmer cela en 1901, savoir qui est cette personne, il faut s'intéresser un petit peu aux années qui précèdent, à cette invention d'un regard sociologique. Et pour ça, évidemment, le nom propre le plus important est celui d'Émile Durkheim, puisque au cours de la décennie 1890 vont paraître un certain nombre d'ouvrages majeurs, les règles de la méthode sociologique, mais aussi le suicide en particulier, des ouvrages dans lesquels Durkheim va faire la démonstration de l'existence de quelque chose comme le social qui n'est pas réductible aux autres dimensions qu'on avait l'habitude d'utiliser pour expliquer par exemple le suicide, c'est-à-dire la psychologie. Non, il y a quelque chose de proprement social dans un fait comme celui-là.
Oui, et ça s'inscrit dans un moment qui est au fond ce qu'on peut décrire comme un moment de mode de la sociologie. D'ailleurs, le terme revient assez souvent à l'époque, notamment chez Durkheim, mais aussi chez d'autres. C'est-à-dire qui s'articule, si vous voulez, à plusieurs choses. C'est à la fois un moment de mise en cause des sciences naturelles comme étant capables d'expliquer les comportements humains. Et ça va être en particulier toute la critique des races. Et le social s'affirme d'abord contre les races. C'est aussi un moment de crise du progrès, de cette idée qui a assez largement dominé le 19e siècle, cette idée qu'il y avait une amélioration continue des sociétés et des hommes.
Idée qui vient du 18e, des Lumières,
et qui est loin, en effet,
formalisée au cours du 19e, mais qui vient à s'essouffler, vous le montrez bien, en cette fin de 19e siècle.
Oui, et c'est l'intérêt de la notion de temps social, c'est que ça permet d'articuler ces deux choses, en fait. Le plein déploiement d'une pensée par le social, articulé à une pensée de l'histoire. C'est-à-dire comment on va penser le temps dès lors qu'on ne peut plus penser ce progrès comme une espèce de loi du monde objective qui s'impose à toute chose. Le geste de Durkheim dans ce moment de mode, ça va être Et c'est là où c'est un peu la spécificité de l'histoire de la sociologie en France, c'est qu'on tombe tout de suite sur un espèce de père fondateur qui est institué comme tel dès ce moment-là, qui est un philosophe systématique et qui va faire du social non pas un mode de compréhension des hommes, mais qui va faire au fond du social le mode de compréhension des hommes.
Avec une prétention, oui, absolue, universelle.
Oui, du coup, la sociologie ne se pense pas du tout à ce moment-là comme une nouvelle discipline. Le terme, d'ailleurs, n'apparaît pas du tout. Elle se pense comme une science nouvelle qui va pouvoir, entre la philosophie et l'histoire, renouveler complètement notre intelligence de l'histoire humaine, l'intelligence de la société présente, et orienter de cette façon-là aussi la manière de guider politiquement la société.
Il faut dire que vous parliez de cette mode de la sociologie n'étant pas institutionnalisée, renvoie à des réalités extraordinairement différentes, à des essayistes, il y a des manières de faire de la sociologie un peu sauvage, on va dire, enfin qui rétrospectivement nous paraissent telles aujourd'hui.
Oui, c'est un terme qui n'est pas du tout fixé, donc qui peut être revendiqué aussi bien par des hommes politiques, de gauche comme de droite, par des anthropologues qui font une sociologie à base de considérations biologiques, de divisions entre les races, etc. C'est vraiment un espèce de mot, c'est le mot magique du moment, dit Henri Hubert, et qui a déjà fait trop de magiciens. D'où la nécessité d'essayer de définir rigoureusement ce que sera la sociologie. Et finalement, on peut partir de ce moment-là, qui est le moment des règles de la méthode sociologique, où Durkheim fait du social le mode d'intelligibilité des hommes, en disant qu'en fait le social s'explique par le social, qu'il ne se résout pas dans une psychologie individuelle, qu'il ne se résout pas dans une biologie raciale, mais qu'il faut comprendre le social par le social, d'où un mouvement d'extension formidable de l'explication par le social, qui va jusqu'à toucher ce qui paraissait le plus stable dans l'esprit humain, et quelque chose comme le temps.
Alors, vous avez prononcé son nom, Henri Hubert, parce que c'est à lui que revient d'avoir pour la première fois formulé l'idée que le temps pouvait être social, ou plus exactement une représentation sociale. Ce sont les mots qu'il utilise, qui sont des mots qui font sens, puisque l'idée de représentation sociale est au cœur de la sociologie durkheimienne.
Oui, complètement.
Et donc c'est 1901, dans un article, que l'on trouve cette phrase, qui sera par la suite élaborée dans un livre que va publier Henri Hubert. Mais alors, peut-être pour nous raconter un petit peu cette histoire, qui est Henri Hubert? Est-ce qu'on peut considérer que, au fond, c'est la famille la plus proche de Durkheim? Durkheim travaille avec Marcel Mauss, qui est son neveu, et Marcel Mauss dit lui-même d'Henri Hubert que son frère jumeau, c'est son frère jumeau. Voilà, ils ne sont pas frères jumeaux du tout, ils sont frères jumeaux de travail en quelque sorte. Donc on est vraiment dans le noyau dur de cette tribu, de cette école française de sociologie.
Oui, alors Henri Hubert est un historien de formation, c'est un des rares historiens de l'école durkheimienne qui sont plutôt des gens qui ont été formés
en philosophie,
qui s'intéressent aux Celtes et aux Germains, et qui travaille effectivement de pair avec Durkheim et Mauss dans ce qu'on va appeler à l'époque le clan totem tabou, en s'en moquant un petit peu, mais c'est-à-dire qu'ils vont développer, en travaillant, parce que c'est le moment, à mon avis, décisif qu'il faut saisir, en travaillant sur ce qu'ils appellent les sociétés primitives, qui vont développer une sociologie religieuse dont l'enjeu va être de comprendre l'émergence de la pensée, de nous donner en fait un moyen de compréhension de l'histoire de la pensée.
Alors ça va donner le grand livre de Durkheim qu'on sait.
Les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un peu l'aboutissement de tout ce mouvement et qui paraît en 1912.
Alors, dans quel contexte cette phrase sur le temps, signée Henri Hubert, apparaît-elle et comment expliquer cette apparition au fond, Thomas Hirsch?
C'est une question complexe. Au fond, ce qu'il faut saisir, c'est un peu cette espèce de dynamique, je pense, par laquelle le social est institué comme mode d'intelligibilité globale. Le point de départ, c'est au fond l'idée qu'il faut prendre radicalement à bras-le-corps la diversité des hommes telle qu'elle s'observe. Et c'est ça le moment décisif, c'est-à-dire de dire, et en particulier ce qu'on appelle les primitifs, de plus ramener leurs pratiques, leurs actions, leurs croyances à des formes de fausses pensées, mais de les prendre radicalement au sérieux. Ils nous disent quelque chose d'essentiel sur ce qu'est l'humain, et ils nous donnent en fait deux clés pour les Durkheimiens. La première, c'est qu'ils nous montrent les hommes, au fond, les plus différents de nous-mêmes. Donc, ils élargissent notre notion d'humanité. Et par ailleurs, et c'est là où ça touche une forme de reformulation de l'évolutionnisme et du progrès, ces sociétés, les sociétés primitives, représentent comme un début de l'histoire. Et la notion de temps social, elle est prise dans ce double enjeu entre, d'un côté, la pensée du social, d'autre côté, la pensée de l'évolution. Tout l'enjeu pour Durkheim, ça va être de dire qu'au fond, en partant des sociétés primitives qui constituent le début de l'histoire, avec l'idée par ailleurs que la société occidentale en serait comme l'aboutissement, on peut reconstituer scientifiquement le mouvement de l'évolution, la logique de l'histoire, dégager des lois, et ainsi fonder une science qui est une espèce de science totale de l'homme. Donc c'est un espèce de composé entre un principe relativiste, qui est le principe que les pensées des hommes varient selon les sociétés, jusque dans ce qui nous paraissait le plus stable et le plus universel.
D'où la méthode comparée.
Voilà, d'où la méthode comparée qui, dit Durkheim, est l'équivalent du microscope dans les laboratoires. Ça d'un côté, et de l'autre côté, une espèce de reformulation scientifique de l'évolutionnisme. Et alors d'un côté, cette pensée par le social, en un sens, ça va être ce qui va fonder les sciences sociales en France, et on en est largement aujourd'hui les héritiers encore. De l'autre côté, du côté de l'évolutionnisme, évidemment, cette pensée-là, elle va être constamment mise à l'épreuve au cours du XXe siècle. Et c'est un peu aussi ce récit-là que fait le livre, c'est-à-dire comment la Première Guerre mondiale, la montée des fascismes, comment ça va travailler cette articulation entre l'évolutionnisme et la pensée par le social.
Alors, il ne faut pas faire de malentendu pour autant, c'est-à-dire qu'il faut être très précis quand on veut comprendre ce que Durkheim et ceux qui travaillent autour de lui entendent par primitif. Il s'agit bien de gens qui sont entrés dans l'histoire, contrairement à ce que pourront dire des responsables politiques beaucoup plus tard, des gens qui sont entrés dans l'histoire, d'une part, et d'autre part, des gens qu'il faut prendre au sérieux. Donc, il faut prendre au sérieux les productions culturelles, les idées, etc. Donc, on n'est pas du tout dans une... certes, on est dans ce schéma évolutionniste qui nous paraît aujourd'hui poser de graves problèmes, mais on n'est pas non plus dans une forme de caricature qu'on pourrait trop facilement peut-être imaginer, Thomas Hirsch.
Mais non, pas du tout. Et c'est un des enjeux du livre aussi, de voir qu'il faut parfois éviter ces jugements un peu hâtifs qu'on porte sur les pensées du passé. Et qu'en particulier, ça constitue un moment décisif et dont Lévi-Strauss se réclamera l'héritier, c'est-à-dire cette idée qu'il faut placer au centre des sciences de l'homme les sociétés qui nous semblent a priori les plus différentes et qui sont des sociétés qui sont néanmoins rentrées dans l'histoire, mais qui, bien que rentrées dans l'histoire, manifestent un rapport au temps qui est très différent du nôtre.
Donc cette question du temps va faire l'objet, après avoir été formulé comme ça, au passage, dans un texte en 1901, faire l'objet d'un travail plus systématique, toujours de ce même Henri Hubert, en 1905 cette fois, donc oui. 1901 pour la première occurrence, 1905 pour le livre, autour des questions de magie.
Oui, c'est tout l'enjeu pour eux, c'est d'articuler des pratiques et des représentations, et la magie, interrogée en tension avec la religion, est un moyen de pénétrer des modes de pensée. C'est un article qui est publié en 1905 par Henri Hubert. La vraie reprise systématique, ça sera Durkheim en 1912, et qui est un moment intéressant et qu'on aborde parfois de manière sans doute trop disciplinaire, parce qu'on voit, on aborde la sociologie d'après ce qu'elle est devenue surtout. Or, c'est un moment où il affirme la pleine ambition de la science nouvelle, et au fond, il propose une forme de refondation du kantisme sur des bases expérimentales, une nouvelle manière de comprendre les catégories de l'esprit humain.
Alors on a affaire à un groupe de gens qui forment cette école française de sociologie, qui sont, vous le rappeliez, pour la plupart à l'origine des philosophes. Il faut dire que, de toute façon, il n'existe pas de chaire de sociologie.
On ne peut pas du tout.
On peut pas passer même une licence de sociologie, et il faudra attendre très longtemps, les années 50, pour que ça apparaisse. Et puis, pareil pour évidemment tous les niveaux et les enseignements de cette discipline. Donc elle est rattachée à la philosophie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, puisque évidemment la sociologie se produit également aux États-Unis, en Allemagne et dans des contextes différents.
Et ça tient à cette ambition-là, c'est-à-dire que Durkheim n'est pas du tout intéressé. Il y a des initiatives à cette époque-là pour essayer de créer une institutionnalisation des sciences sociales. Il y a un collège
international.
Des sciences sociales.
Oui. On voit des Français aller faire des communications à Chicago dans votre livre, qui est vraiment un des hauts lieux de la sociologie américaine.
Mais Durkheim n'est pas du tout dans cette perspective-là, puisque pour lui, au fond, la sociologie, ça doit être une science entre la philosophie et l'histoire qui va renouveler et coiffer l'une et l'autre, et elle va s'imposer naturellement à l'université dans les chaires de philosophie et d'histoire. Il n'y a pas, si vous voulez, de démarche d'institutionnalisation du tout à ce moment-là pour lui. C'est pas un enjeu, au fond.
Alors, il y a une forme de concurrence, et la question du temps, on va la retrouver aussi, entre ce projet durkheimien, tel que vous venez de le décrire, et puis la façon dont l'histoire elle-même est en train de changer à l'époque, avec des auteurs comme Charles Seignobos en particulier, ou aussi vis-à-vis d'autres projets intellectuels, et notamment celui de la revue de synthèse de Henri Behr, qui va choisir une troisième voie, en quelque sorte.
Oui, oui, c'est un des enjeux du livre, de resituer aussi cette circulation, cette plasticité entre des projets intellectuels qu'on sépare souvent, mais qui au fond sont rivaux à ce moment-là, justement parce que l'espace n'est
rivaux
pas organisé.
Rivaux et en contact, en communication.
En contact continuel, au fond. C'est-à-dire que les historiens, philosophes, ceux qui vont ensuite s'appeler ethnologues, psychologues, en fait participent d'une même conversation sur ce que doit être la science de l'homme.
Et donc, quels sont les enjeux par rapport à l'histoire en particulier?
À l'histoire, le premier enjeu, c'est que, au fond, les philosophes qui se font de la sociologie, d'une certaine manière, se convertissent à l'histoire. C'est-à-dire que dire que comprendre les hommes, on va plus pouvoir le faire sur un plan logique et, ou sur un plan a priori, il faut étudier les hommes dans l'histoire pour se faire.
Et une histoire qui n'est pas une philosophie de l'histoire.
Et qui n'est pas une philosophie de l'histoire. Mais ils ont en même temps le sentiment, à un moment où le métier d'historien s'est professionnalisé, où les techniques de réduction se sont développées, ils ont le sentiment que l'histoire est en train de se rapetisser sur des enjeux, des événements, en perdant de vue ce que serait une vraie science de l'histoire, qui serait capable de dégager, en particulier par la comparaison, des lois.
Alors, ce travail va se déployer jusque autour de la Première Guerre mondiale et puis entre les deux guerres. Vous allez jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, au fond, oui. Avec ce livre. Quels sont les grands moments qu'on peut distinguer après ce moment fondateur sur lequel on s'est arrêté, c'est-à-dire la formulation de la question du temps par Henri Hubert, reprise par Durkheim dans ce grand livre de 1912. Comment les choses vont-elles ensuite s'organiser? Cette question du temps, on va la retrouver dans les travaux de gens très variés et de manière très différente, entre un Maurice Halbwachs qui va s'intéresser à la mémoire collective ou un Granet qui travaille sur... Alors d'abord, il s'intéresse d'un point de vue théorique à des questions différentes, mais en plus, il travaille sur des objets concrets extraordinairement différents.
Oui, et c'est une des parties amusantes à travailler là-dessus, c'est qu'on du coup, on voyage beaucoup entre la Chine ancienne... les Incas, la société féodale telle que l'analyse Marc Bloch, etc. Alors, en fait, il y a principalement trois auteurs proches de Durkheim, quoique selon des modalités différentes, qui vont travailler beaucoup cette notion-là. Le premier, ça va être Lucien Lévy-Brulle, qui était aussi dans une position un peu de concurrence vis-à-vis de Durkheim, qui va travailler sur la mentalité primitive. Et c'est l'expression qui va rester accolée à son nom. Il va être ensuite très caricaturé, rejeté. Mais au fond, c'est un auteur qui permet de suivre très précisément sur l'ensemble de la période comment est travaillé cet évolutionnisme, comment il est remis en cause et comment à partir, au fond, au début chez Durkheim, d'une évidence que notre propre manière de penser le temps est le résultat de l'histoire, qu'on est la pointe avancée de l'humanité, la pensée par le social va aboutir à une dénaturalisation de notre rapport à nous-mêmes. Et au fond, où dans le dernier, Lévy-Brulle, c'est l'Occident lui-même qui n'est plus la pointe avancée de l'histoire, mais qui est une construction singulière, historique, qu'il faut étudier en tant que telle.
Et ça, la c'est polarité l'aboutissement d'un travail. On est à quel
Ça, c'est le moment. En gros, le point de repère, c'est 1935 et son livre sur la mythologie primitive, où on voit très nettement la façon dont les choses se sont inversées. Et dont, à partir au début d'une évidence du progrès, malgré tout, d'un progrès reformulé scientifiquement, mais du progrès, à partir des tribulations de ces premières décennies du XXe siècle, marquées par la Première Guerre mondiale, puis par la montée des fascismes et du nazisme, il y a une mise en cause assez profonde chez ces auteurs du sens de l'histoire, de telle sorte que, au fond, l'évidence qu'on incarnait une figure de l'avenir se trouve mise en cause.
Oui, parce que évidemment, on peut pas comprendre cette histoire intellectuelle sans prendre en compte le contexte historique et politique que traverse ce groupe d'hommes qui va d'une remise en cause du progrès liée aussi à des formes de crise économique, à évidemment l'affaire Dreyfus qui va être très importante. Ce sont des hommes engagés pour Dreyfus dans ce moment-là. Et puis évidemment la Première Guerre mondiale qui va survenir. Vous venez de le dire, la montée en puissance du fascisme après dans l'entre-deux-guerres. Donc on a là, j'imagine, des contextes qui, tour à tour, vont avoir une influence sur la manière de forger des concepts nouveaux.
Oui, complètement. Et la sociologie émerge et est reconnue en même temps que l'affaire Dreyfus. C'est vraiment une espèce de double enjeu à la fois scientifique et politique, d'autant que la sociologie ne se donne pas du tout comme une science théorique, puisque faire la science des hommes et des sociétés humaines, c'est un moyen, fondamentalement, c'est comprendre pour pouvoir agir. Le moment de repère qui est clairement identifié ensuite de basculement, c'est celui de la Première Guerre mondiale. En réalité, quand on suit les choses d'assez presque, frappant chez ces hommes de science, c'est la manière dont la Première Guerre mondiale est interprétée, peut-être interprétée, non pas comme une crise fondamentale sur le moment, mais comme finalement la sortie du 19e siècle. C'est-à-dire cette idée que on sort des tribulations, de l'opposition entre réaction et démocratie, la victoire des alliés, vient finalement marquer un moment de libération par rapport au siècle des révolutions et l'ouverture d'une ère de prospérité, de paix, etc. Il y a un vrai messianisme qui est aussi qu'on retrouve chez le président Wilson autour de la création de la SDN, une espèce d'enthousiasme comme ça.
Ça vient au fond conforter la lecture qu'aura du XXe siècle Eric Hobsbawm d'un court XXe siècle, c'est-à-dire qu'il commence avec cette Première Guerre mondiale. En
tout cas. Et au fond, ce qui va être vraiment le moment décisif pour eux, ça sera la montée des fascismes, qu'ils vont interpréter d'abord comme une espèce de résurgence du passé, et dont ils vont voir petit à petit que c'est aussi une figure du moderne, et en un sens même du plus moderne. Et là, ça remet en cause assez radicalement leur propre conception du temps et de leur société.
Alors pour faire ce travail, après on en viendra aux deux autres figures, parce vous êtes arrêté sur Lucien Lévy-Brulle, enfin aux deux autres principales, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais pour faire ce travail, je voulais qu'on s'arrête un moment là-dessus aussi, Thomas Hirsch, vous avez, pour faire ce travail d'histoire intellectuelle, vous êtes évidemment intéressé aux livres tels qu'ils ont paru, aux articles de revues, ceux de l'année sociologique en particulier, mais d'autres aussi, la revue de métaphysique et de morale, enfin tous ces lieux de publication importants. Mais également, parce que cette œuvre d'historien a beaucoup de correspondances privées, d'archives, qui sont nombreuses entre tous ces hommes et qui vous ont permis de repérer au fond la manière dont les choses bougent avant même que de se trouver stabilisés dans des livres.
Oui, c'est un peu le cœur de la démarche que j'ai essayé de mettre en œuvre, c'est-à-dire si on le situe un peu dans le paysage historiographique, il y a beaucoup plus de travaux sur l'histoire des sciences sociales, parce qu'on est dans un moment réflexif aussi des sciences sociales. Et au fond, de plus en plus, il y a une division entre, d'un côté, une histoire des pratiques intellectuelles, une socio-histoire même des pratiques intellectuelles, et de l'autre côté, une philosophie des sciences sociales qui s'intéresse au contenu. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller constamment de l'un à l'autre, avec l'idée que c'était en situant aussi précisément que possible, aussi concrètement que possible les choses, qu'on pouvait avoir une lecture qui soit véritablement une lecture historique d'enjeux théoriques. C'est, pour reprendre une jolie expression de Jean-Claude Perrault, essayer de faire une histoire concrète de l'abstraction. Donc ça suppose effectivement de travailler à partir de beaucoup de fonds d'archives mis en réseau qui permettent de repérer des correspondances, de voir une parole un peu libérée de l'autocensure politique ou scientifique. Ça suppose surtout de reconstituer des discussions entre des hommes et entre des œuvres. Je m'attache beaucoup à reconstituer la réception de ces ouvrages pour voir la manière dont ils ont été lus. Puisqu'au fond, une des manières de lire historiquement, des textes, même très théoriques, c'est de voir comment ils ont été lus sur le moment. Qu'est-ce qu'ils faisaient en jeu, qu'est-ce qu'ils faisaient problème, qu'est-ce qu'on lisait, qu'est-ce qu'on ne lisait pas dans ces textes-là. Et c'est comme ça qu'entre, si vous voulez, le principe un peu post-moderne du texte qui a autant un nombre de significations
indéfinies,
oui, et entre lesquelles il n'est pas possible de trancher d'une part, et l'autre, le postulat naïf qu'il y a une univocité de sens des textes, à mon avis, il est possible de développer une lecture historique des textes.
Et donc plus précise en regardant qu'effectivement il y a eu de multiples lectures, mais pas non plus un nombre infini de lectures. En tous les cas, il y a eu des échanges, et ces échanges, je les retrouvais notamment dans les correspondances, les lettres d'Durkheim-Mauss, qui sont, mais beaucoup d'autres. Alors, on s'est arrêté sur Lucien Lévy-Brulle. Quelles sont les autres figures que vous
voulez évoquer ? Les deux autres figures liées à l'école durkheimienne, c'est d'abord Marcel Granet, qui est un autre historien. C'est d'ailleurs une des particularités de cette notion de temps social, c'est que ça mobilise les historiens chez les durkheimiens.
Après tout, normal que les historiens s'intéressent au temps. Mais
un historien qui va travailler, lui, l'idée, ce sera de faire... Au départ, il voulait faire une histoire comparée de la féodalité entre Chine, Japon et Europe. Et finalement, il se plonge dans l'univers chinois, il va en Chine en 1911, et il ne travaillera que sur la Chine, et que sur la Chine la plus ancienne. Et un des enjeux de l'œuvre de Marcel Granet, à mon sens, sur ce plan du temps des sociétés, ça va être de désinscrire un petit peu la Chine du schéma évolutif durkheimien. C'est-à-dire que pour Mauss et Durkheim, dans leur texte où ils recomposent un peu l'histoire de la pensée, la Chine, c'est un espèce de moment intermédiaire entre les sociétés primitives et la raison occidentale moderne. Marcel Granet, lui, va montrer à partir d'une histoire, qui est une histoire sociologique, articulant constamment l'évolution de la société et l'évolution des manières de penser, que la finalité de la pensée chinoise, c'est une raison propre, une raison spécifique, qui est la raison chinoise. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de prise de distance vis-à-vis de la prétention à incarner nous-mêmes la rationalité. Et c'est un des enjeux des sciences sociales.
Donc, Lucien Lévi-Brulle, Marcel Granet, et la troisième figure...
C'est Maurice Halbwachs, dont vous avez dit un mot tout à l'heure, qui est un durkheimien, qui au départ travaille... dont une des spécificités, c'est qu'il travaille sur la société contemporaine. Au départ, il travaille sur les classes ouvrières et sur la manière dont les classes ouvrières conçoivent leurs besoins, donc répartissent leurs dépenses, etc. Et lui va finalement entrer dans le débat entre sociologie et psychologie qui est très fort à cette époque, en essayant de montrer que la mémoire elle-même, dont on fait le centre de l'individualité chez Bergson, mais aussi chez des psychologues comme Henri Pierron, est aussi une fonction sociale. Et donc ce rapport intime au temps, en un sens, qui est celui de la mémoire, est aussi cadré par notre appartenance à des groupes sociaux spécifiques.
Merci Thomas Hirsch. En fait, toute cette histoire va être interrompue d'une certaine façon par la Seconde Guerre mondiale. Il faudra du temps pour que les choses se remettent en place. Là, c'est dans la biographie de Claude Lévi-Strauss, en particulier d'Emmanuel Loyer, qu'on peut trouver des éléments pour comprendre comment ça redémarre lentement. Mais ce qui s'est écrit entre les deux guerres mondiales sur cette façon de penser le temps est considérable. Et vous en avez fait l'histoire dans ce livre, Le temps des sociétés, d'Émile Durkheim à Marc Bloch. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter autant de fois qu'il vous plaira cette émission et puis également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Attaché de production, Catherine Donnet, à la technique, Philippe Palares, à la réalisation, Anne Pérez. Et dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein.